de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour ou de découvrir d'autres extraits du même auteur. Et ce, le plus simplement du monde, par la simple écoute d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Et aujourd'hui, en l'absence d'Hervé, nous entendrons Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Et aujourd'hui, notre émission aura un caractère particulier puisqu'elle se fait en présence d'une classe. Une classe venue spécialement de la mode Beuvron, venue voir comment se réalise une émission de radio. Bonjour à toutes, à tous et à Madame Ingrand, leur enseignante.
Bonjour Dominique.
Voilà. Madame Ingrand, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui vous a pris, qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour amener vos enfants ici
à la radio? En fait, le début, c'était lié aux Jeux Olympiques. Vous allez me dire, aux Jeux Olympiques radio, quel est le rapport? En fait, on est parti sur...
Mais oui, quel est le rapport?
Ouais, le projet était de faire aux élèves des interviews, de faire des petits montages. Et puis, le collège a la chance d'être doté d'un nouvel outil, voilà, une petite radio, enfin une bonne, voilà, une belle radio. Et va falloir qu'on se mette, nous, enseignants...
Il va falloir la faire fonctionner.
Apprendre comment ça fonctionne pour pouvoir après faire plein de projets avec les élèves. Et donc, comme nous venions à Blois ce matin pour découvrir un sport en lien avec les JO qui était donc l'escalade, on s'est dit que Radio ZEF était tout trouvé.
Tout indiqué.
Voilà, tout indiqué pour venir voir.
Pour venir voir comment ça se passe.
Comment ça fonctionne. Voilà.
Et bien pour nous, c'est toujours un plaisir de sortir des murs chaque fois qu'on le peut ou d'accueillir des auditeurs, ou d'éventuels auditeurs, ou de futurs auditeurs. Eh bien, jeunes gens, vous n'allez pas rester de simples spectateurs. Hein. Nous allons vous faire participer, que l'on puisse entendre votre voix. Les enfants nous ont préparé quelque chose, je crois.
Alors, Anaëlle, tu vas nous expliquer. On est venu quoi faire.
Tu nous expliques ce que vous avez préparé?
On a préparé à vous lire un poème.
Très bien. Et donc, chacun d'entre vous va nous lire un petit extrait, va nous lire un poème que l'on diffusera tout au long de l'émission. Eh bien, bienvenue à tous. Et nous allons commencer notre lecture. Je me tourne vers Catherine. Parlons un petit peu du livre d'aujourd'hui.
Mais avec plaisir. Alors, tiens, tu ne m'as pas demandé si c'était une nouvelle ou un roman. Mais je te réponds tout de suite, ce n'est ni une nouvelle ni un roman, c'est un conte.
Alors je ne t'ai pas posé la question parce que je connais la réponse. C'est vrai que je devais te demander, est-ce que c'est une grande nouvelle ou un petit roman?
C'est pas grave, ça s'appelle un peu d'improvisation. Alors, il s'agit donc d'un conte qui s'appelle « L'homme qui plantait des arbres » de l'écrivain français Jean Giono,
que j'adore. Je crois que ce livre-là, je l'ai lu au moins 10 fois. C'est vraiment un plaisir de le relire à chaque fois. Et ça fait partie de ces quelques livres-là, comme Jonathan Livingstone, Le Goéland, par exemple. On peut tomber dedans, même en plein milieu, et le relire jusqu'au bout. Il y a dans ce livre des valeurs humanistes qui sont éternelles. Ouais. Et ça a été écrit, je crois, avant qu'on parle même d'écologie.
En fait, Giono l'a écrit en 1953, donc ça commence à dater. Il l'avait écrit, c'est lui-même qui dit ça, pour faire aimer à planter des arbres. Selon ses termes, dans ce court récit, le narrateur évoque l'histoire du berger Elzéar Bouffier qui fait revivre sa région en Haute-Provence entre 1913 et 1947. Ça dure quand même. Hein. Mais le plus curieux est de savoir ce qu'a déclenché cette écriture. En fait, le Reader Digest ou Rider Digest,
Rider Digest, Digest.
Voilà, avait lancé une sorte de concours et il demandait... que l'on décrive le personnage le plus extraordinaire que vous avez rencontré. Et notre ami Giono s'est lancé dans l'aventure, mais évidemment, c'est un écrivain. Donc lui, il invente.
Eh oui.
Donc il a inventé cette histoire. Il l'a écrit en une nuit.
Impressionnant quand même.
Voilà,
hein.
En une nuit. Il envoie son texte donc, au Rider Digest. Et là, le Rider Digest aime beaucoup son texte, mais doute que ce soit la vérité. Alors, il a joué le jeu un certain temps, Giono, en disant « Si, c'est vrai, Elzéar Bouffier a été enterré au cimetière de tel endroit. » Enfin, il essaie de prouver que c'est vrai. Mais ça n'a pas plu à l'éditeur qui a dit non, c'est pas une vraie histoire, je l'édite pas. Donc en fait, ça a été publié un an plus tard par une revue qui s'appelait Vogue, voilà, en 1954.
Une revue française.
Oui, mais c'était en anglais. Hein. C'est-à-dire que ça D'accord. a été d'abord publié en anglais sous le titre « The Man Who Planted Hope and Grew Happiness ». Alors, ce n'est pas du tout l'homme qui plantait des arbres.
Ton accent est formidable.
Oh, merveilleux. J'ai travaillé pendant 10 ans avant. L'homme qui plantait l'espoir et faisait pousser le bonheur.
C'est merveilleux.
Voilà, c'est le premier titre. Et après, le texte apparaît dans des revues françaises et sa première publication en langue française, c'est sous le titre « L'homme qui plantait des arbres ». Et ça a été fait dans une revue qui s'appelle la Revue forestière française en 73.
En 73, donc, alors que ça avait été écrit en 53.
C'est fou, hein. Et ce titre, en fin de compte, c'est sa fille, la fille de Giono, qui l'a donné, mais son père, sous les conseils de son père. Quoi. Mmh. Puisqu'en 73, il était décédé.
Ah oui, et voilà. Exact. Eh bien, nous avons hâte d'entendre le premier extrait. Catherine, je te laisse la parole.
Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part et qu'au surplus, elle ait laissé sur le monde des marques visibles, on est alors sans risque d'erreur devant un caractère inoubliable. Il y a environ une quarantaine d'années, je faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. Cette région est délimitée au sud-est et au sud par le cours moyen de la Durance, entre Sisteron et Mirabeau, au nord par le cours supérieur de la Drôme, depuis sa source jusqu'à Die, à l'ouest par les plaines du Comtat-Venessin et les contreforts du Mont Ventoux. Elle comprend toute la partie nord du département des Basses-Alpes, le sud de la Drôme et une petite enclave du Vaucluse. C'était au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts des landes nues et monotones, vers 1200 à 1300 mètres d'altitude. Il n'y poussait que des lavandes sauvages. Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur et après 3 jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, quoiqu'en ruines, comme un vieux nid de guêpes, me firent penser qu'il avait dû y avoir là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les 5 à 6 maisons sans toiture rongées de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé était rangée comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants. Mais toute vie avait disparu. C'était un beau jour de juin avec grand soleil, mais sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ses grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À 5 heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Une 30aine de moutons couchés sur la terre brûlante se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde et un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie, dans une ondulation du plateau. Il tirait son eau excellente d'un trou naturel très profond, au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu. C'est le fait des solitaires. Mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas une cabane, mais une vraie maison en pierre où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là à son arrivée. Son toit était solide et étanche. Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Son ménage était en ordre, sa vaisselle lavée, son parquet balayé, son fusil graissé, sa soupe bouillée sur le feu. Je remarquai alors qu'il était aussi rasé de frais, que tous ses boutons étaient solidement cousus, que ses vêtements étaient reprisés, avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe, et comme après je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant, sans bassesse. Il avait été entendu tout de suite que je passerais la nuit là, le village le plus proche étant encore à plus d'une journée et demie de marche. Et au surplus, je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Il y en a 4 ou 5 dispersés loin les uns des autres sur les flancs de ces hauteurs, dans les taillis de chênes blancs à la toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits où l'on vit mal. Les familles, serrées les unes contre les autres dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme en vase clos. Les hommes vont porter leur charbon à la ville et leur camion, puis retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle douche écossaise. Les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence sur tout, aussi bien pour la vente du charbon que pour le banc de l'église. Pour les vertus qui se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux, et pour la mêlée générale des vices et des vertus sans repos. Par là-dessus, le vent également sans repos irrite les nerfs. Il y a des épidémies de suicide et de nombreux cas de folie, presque toujours meurtrières. Le berger qui ne fumait pas alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner un après l'autre avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Je fumais ma pipe, je me proposais pour l'aider, il me dit que c'était son affaire. En effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. Ce fut toute notre conversation. Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de 10. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui 100 glands, parfaits, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher.
Un grand arbre j'ai poussé une sorte de vieux marronnier au centre d'une cour carrée majestueux. Dans ses racines j'ai puisé la sève des grandes traversées et mon pays je l'ai trouvé dans tes yeux. Sous mon arbre je me balance, je me repose loin du cours des choses. Sous mon arbre je me balance, c'est la pause. J'ai fait grandir tout mon feuillage, j'y ai mis mes enfantillages, et nos enfants de tous les âges, merveilleux. J'ai fait durcir un peu l'écorce, pour nous donner le cœur, la force, de voir la vie et ses entorses. Sous mon arbre je me balance, je me repose loin du cours des choses.
mon arbre je me balance. C'est la pause. On a bâti notre cabane, nous petits dans tes bras de liane. À l'abri tu berces mon âme. Avec sous mon arbre on se balance. Ensemble on retrouve les jolies choses. Oui sous mon arbre on se balance. C'est grandiose. C'est grandiose. Sous mon arbre on se balance. C'est grandiose.
Le blues des épinards. Les épinards ont le cafard, les épinards sont un pétard, d'être mal aimé des enfants qui préfèrent mâcher du sang. Les épinards ont le cafard, les épinards pleurent dans le noir, pourtant quel bon goût ils ont, mariés aux tomates ou au jambon. Les épinards ont le cafard, ne les laissez pas au placard, feuilletez-les au fromage blanc ou bleu, rendez-les crémeux, ils feront des heureux.
Les quais s'en vont en douce, les quais s'en vont en douce, en accrochant dans les branches, les reflets ensoleillés, feuilles jaunes, feuilles rouges, feuilles brunes ou bien rouges. Bientôt l'arbre frisonne et c'est l'automne. François Bourne.
Printemps. Pour l'arrivée du printemps, rien de mieux qu'un joli chant. Il est gai, léger et entraînant, nous l'apprenons en sifflotant, toujours heureux, toujours content, et dans le ciel bleu piqueté de blanc, mille hirondelles planant au vent, pour célébrer ce grand moment, sous l'œil amusé des enfants. Karine Persilé.
Voilà, nous avons entendu quelques extraits de des poèmes que nous avait préparés les élèves de la mode Beuvron. Je reviens au livre. Dans le livre, bien entendu, on va avoir une idée de renaissance, de renouveau qu'on retrouve dans d'autres livres de Giono. Je pense à Regain, par exemple, où on a un homme qui fait revivre un village qui se meurt. D'une manière générale, Giono a surtout... Je dis Giono comme si c'était un Américain. Giono. Giono. T'es
contaminé par le Reader Digest.
C'est exactement ça. Jean Giono a surtout écrit sur la Provence et on l'a parfois catalogué comme un auteur régionaliste, mais en fait il est bien plus que ça, les thèmes qu'il développe sont toujours universels.
Exactement, c'est un régionaliste universel. En fait, pour le situer, précisons que Jean Giono est né le 30 mars 1895 à Manosque et est mort le 9 octobre 1970 dans la même ville. Un grand nombre de ses ouvrages ont pour cadre le monde paysan provençal. Inspiré par son imagination et ses visions de la Grèce antique, son œuvre romanesque dépeint la condition de l'homme dans le monde, face aux questions morales et métaphysiques, et possède une portée universelle. Alors son œuvre est prolifique, assez dense, très variée, et certains de ses romans sont devenus des grands classiques de la littérature française du XXe siècle. Regain, que tu as cité, oui. Le hussard sur le toit, Un roi sans divertissement ou Les âmes fortes, pour la plupart d'ailleurs adaptés au cinéma.
Ah ouais. Et Regain, ça fait partie d'une trilogie, si je me souviens bien. Alors, il y a un Beaumung,
oui,
Regain et Colline.
Peut-être, oui. Voilà.
Giono a connu la Première Guerre mondiale aussi. Hein. Donc ce récit de reconstruction, ça évoque forcément la guerre 14. D'ailleurs, il en parle un peu dans le livre, si je me souviens
oui,
bien.
Oui, parce que d'ailleurs, j'ai donné les dates. Hein. C'est de 1900, je l'ai dit au début, 1913 à 1947, cette histoire. En fait, il y a la guerre de 14, Giono part 5 ans. Et puis, il y a aussi la guerre de 40 dans le roman.
Exact, oui, il y a aussi la guerre de 40.
Oui. Voilà. Ouais. Et donc, il évoque la folie meurtrière des hommes. La société de cet homme donnait la paix. Je lui demandai le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel. Ou plus exactement, il me donna l'impression que rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m'était pas absolument obligatoire, mais j'étais intriguée et je voulais en savoir plus. Il fit sortir son troupeau et il le mena à la pâture. Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands soigneusement choisis et comptés. Et je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de fer, grosse comme le pouce et longue d'environ 1,50 m. Je fis celui qui se promène en se reposant et je suivis une route parallèle à la sienne. La pâture de ses bêtes était dans un fond de combe. Il laissa le petit troupeau à la garde du chien et il monta vers l'endroit où je me tenais. J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion, mais pas du tout. C'était sa route et il m'invita à l'accompagner si je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à 200 mètres de là sur la hauteur. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland. Puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandai si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Et savait-il à qui elle était ? Il ne savait pas. Il supposait que c'était une terre communale ou peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi ses 100 glands avec un soin extrême. Après le repas de midi, il recommença à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions puisqu'il répondit. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié, du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. Il avait visiblement plus de 50 ans. 55 ans, me dit-il. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines, il y avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourait par manque d'arbres. Il ajouta que n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Menant moi-même à ce moment-là, malgré mon jeune âge, une vie solitaire, je savais toucher avec délicatesse aux âmes des solitaires. Cependant, je commis une faute. Mon jeune âge, précisément, me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur. Je lui dis que dans 30 ans, ces 10 000 chênes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que si Dieu lui prêtait vie, dans 30 ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces 10 000 seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Il étudiait déjà d'ailleurs la reproduction des hêtres et il en avait près de sa maison une pépinière issue des faines. Les sujets qu'il avait protégés de ses moutons par une barrière en grillage étaient de toute beauté. Il pensait également à des bouleaux pour les fonds où, me dit-il, une certaine humidité dormait à quelques mètres de la surface du sol. Nous nous séparâmes le lendemain. L'année d'après, il y eut la guerre de 14, dans laquelle je fus engagée pendant 5 ans. Un soldat d'infanterie ne pouvait guère y réfléchir à des arbres. À dire le vrai, la chose même n'avait pas marqué en moi. Je l'avais considérée comme un dada, une collection de timbres et oubliée. Sortie de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule, mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans idée préconçue, sauf celle-là, que je repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé, toutefois. Au-delà du village mort, j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs, comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. 10 000 chênes, me disais-je, occupent vraiment un très large espace. J'avais vu mourir trop de monde pendant ces 5 ans pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier. D'autant que lorsqu'on a 20 ans, on considère les hommes de 50 comme des vieillards, à qui il ne reste plus qu'à mourir. Et il n'était pas mort. Il était même fort vert. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre 100 de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres. Car, me dit-il, et je le constatais, il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privée de parole et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait en 3 tronçons 11 kilomètres de long et 3 kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti de ses mains et de l'âme de cet homme sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée et les hêtres qui m'arrivaient aux épaules, répandus à perte de vue, en témoignaient. Les chênes étaient drus et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Quant au dessein de la Providence elle-même pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait avoir désormais recours au cyclone. Il me montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de 5 ans, c'est-à-dire de 1915, de l'époque où je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tout le fond, où ils soupçonnaient avec juste raison qu'il y avait de l'humidité presque à fleur de terre. Ils étaient tendres comme des adolescents et très décidés. La création avait l'air d'ailleurs de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas, il poursuivait obstinément sa tâche, très simple. Mais en redescendant par le village, je vis couler de l'eau dans des ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de réaction qu'il m'avait été donné de voir. Ces ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau dans des temps très anciens. Certains de ces villages tristes dont j'ai parlé au début de mon récit s'étaient construits sur les emplacements d'anciens villages gallo-romains dont il restait encore des traces, dans lesquels les archéologues avaient fouillé, et ils avaient trouvé des hameçons à des endroits où au XXe siècle on était obligé d'avoir recours à des citernes pour avoir un peu d'eau. Le vent aussi dispersait certaines graines. En même temps que l'eau réapparut, réapparaissaient les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs, et une certaine raison de vivre. Mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs, qui montaient dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des sangliers, avaient bien constaté le foisonnement des petits arbres, mais ils l'avaient mis sur le compte des malices naturelles de la terre. C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Il était insoupçonnable. Qui aurait pu imaginer dans les villages et dans les administrations une telle obstination dans la générosité la plus magnifique?
Va tomber, les branches salissaient les murs. Et rien ne doit rester, le monsieur veut garer sa voiture. Nous, on l'avait griffé, juste pour mettre des flèches et des cœurs.
l'arbre va tomber, le monde regarde ailleurs. L'arbre va tomber, ça fera de la place au carrefour. L'homme est décidé, et l'homme est le plus fort, toujours. C'est pas compliqué, ça va pas lui prendre longtemps. Tout faire dégringoler, l'arbre avec les oiseaux dedans. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient, et tellement qui s'y abritent encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient. Une vie d'arbre à coucher dehors. L'arbre va tomber, l'homme veut mesurer sa force. Et l'homme est décidé, la lame est déjà sur l'écorce. Et tellement qui s'y abritent encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient. Une vie d'arbre à coucher dehors. L'arbre va tomber, on se le partage déjà. Y'a rien à regretter. C'était juste un morceau de bois. Ouh, un bout de forêt, avancer trop près des maisons. Et pendant qu'on parlait, l'arbre est tombé pour de bon. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient. Ces nuits d'hiver quand les averses tombaient. Oh, t'as dû en voir passer des cortèges de paumés, des orages, des météores. Et toutes ces nuits d'hiver quand les averses tombaient. Une vie d'arbre à coucher dehors. À perdre le nord.
Il était une fois perché sur son poirier, la tête en haut, il était un poireau planté en terre, la tête en bas, et le poireau poussé vers le haut et la poire perchée vers le bas. Poire, poireau, la différence est dans l'os. Un jour, le grand orange, il y a eu entre eux un coup de foudre. C'était l'amour sucré, salé, soudain, mais il n'était pas de même terre, de même graine, de même assiette. L'un de vinaigrette promit l'autre au dessert destiné à aller, il jamais ensemble se mettre à table.
Elle est gelée toute l'année, elle aime le froid de l'hiver, elle ne supporte pas l'été, c'est pourtant là qu'on la préfère. Sous le soleil, c'est si bon, hélas, elle fond, fond, fond. Au chocolat ou au café, à la vanille ou au citron, on la vend dans des cornets ou des petits pots en carton. Sous le soleil, c'est si bon, hélas, elle fond, fond, fond.
L'olivier a les yeux noirs. Comme les éléphants et les vieux anthropos, l'olivier gris, plein de nœuds et de rides. Allumé au soleil, ses petits fruits qui sont ses yeux noirs, qui sont les boutons de chemise bleue du ciel.
Feuilles d'automne, j'ai regardé les feuilles rouges, elles tombent, j'ai regardé les feuilles jaunes, elles volent, j'ai regardé les feuilles brunes que le vent poussait, jaune, rouge, jaune, brune, chacune danse, je la belle, j'accord.
C'était notre petite virgule, poésie. Voilà. Donc on revient à Giono. Mm-hmm. Donc le texte a été publié en anglais puis en français.
En anglais et en français, mais et c'est Giono qui le dit lui-même, mais aussi
mais pas seulement.
Au moins en 12 langues. Il parlait du danois, finlandais, suédois, norvégien, anglais, allemand, russe, tchécoslovaque, hongrois, espagnol, italien, yiddish.
Même en yiddish.
Alors il dit, j'ai donné mes droits gratuitement pour toutes les reproductions. Donc en plus, il a fait don de ses droits d'auteur, ce qui est important.
Sachant que le nombre de livres qui ont été vendus, c'est généreux.
Ah, c'est de la folie, oui, oui. Avec l'homme qui plantait des arbres, Giono acquiert une posture résolument optimiste. C'est une fable naïve pour certains, on le voit. La nouvelle présente une conception écologiste assumée qui contraste beaucoup avec ses œuvres antérieures. À partir de 1920, je ne suis jamais restée plus d'un an sans rendre visite à Elzéar Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir ni douter. Et pourtant, Dieu sait si Dieu même y pousse. Je n'ai pas fait le compte de ses déboires. On imagine bien cependant que pour une réussite semblable, il a fallu vaincre l'adversité. Que pour assurer la victoire d'une telle passion, il a fallu lutter avec le désespoir. Il avait pendant un an planté plus de 10 000 érables. Ils moururent tous. L'an d'après, il abandonna les érables pour reprendre les hêtres qui réussirent encore mieux que les chênes. Pour avoir une idée à peu près exacte de ce caractère exceptionnel, il ne faut pas oublier qu'il s'exerçait dans une solitude totale. Si totale que vers la fin de sa vie, il avait perdu l'habitude de parler. Ou peut-être n'en voyait-il pas la nécessité. En 1933, il reçut la visite d'un garde forestier éberlué. Ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire de feu dehors, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C'était la première fois, lui dit cet homme naïf, qu'on voyait une forêt pousser toute seule. À cette époque, il allait planter des hêtres à 12 kilomètres de sa maison. Pour s'éviter le trajet d'aller-retour, car il avait alors 75 ans, il envisageait de construire une cabane de pierre sur les lieux mêmes de ses plantations, ce qu'il fit l'année d'après. En 1935, une véritable délégation administrative vient examiner la forêt naturelle. Il y avait un grand personnage des eaux et forêts, un député, des techniciens, on prononça beaucoup de paroles inutiles, on décida de faire quelque chose et heureusement, on ne fit rien. Sinon, la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État et interdire qu'on vienne y charbonner. Car il était impossible de n'être pas subjugué par la beauté de ces jeunes arbres en pleine santé. Et elle exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même. J'avais un ami parmi les capitaines forestiers qui étaient de la délégation. Je lui expliquais le mystère. Un jour de la semaine d'après, nous allâmes tous les deux à la recherche d'Elzéar Bouffier. Nous le trouvâmes en plein travail à 20 km de l'endroit où il avait eu lieu l'inspection. Ce capitaine forestier n'était pas mon ami pour rien. Il connaissait la valeur des choses. Il sut rester silencieux. J'offris les quelques œufs que j'avais apportés en présent, nous partageâmes notre casse-croûte en trois, et quelques heures passèrent dans la contemplation muette du paysage. Le côté d'où nous venions était couvert d'arbres de 6 à 7 mètres de haut. Je me souvenais de l'aspect du pays en 1913, le désert. Le travail paisible et régulier, l'air vif des hauteurs, la frugalité et surtout la sérénité de l'âme avaient donné à ce vieillard une santé presque solennelle. C'était un athlète de Dieu. Je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir d'arbres. Avant de partir, mon ami fit simplement une brève suggestion à propos de certaines essences auxquelles le terrain d'ici paraissait devoir convenir. Il n'insista pas. Pour la bonne raison, me dit-il après, que ce bonhomme en sait plus que moi. Au bout d'une heure de marche, l'idée ayant fait son chemin en lui, il ajouta « Il en sait beaucoup plus que tout le monde et il a trouvé un fameux moyen d'être heureux. » C'est grâce à ce capitaine que non seulement la forêt mais le bonheur de cet homme furent protégés. Il fit nommer 3 gardes forestiers pour cette protection et il les terrorisa de telle façon qu'ils restèrent insensibles à tous les pots de vin que les bûcherons pouvaient proposer. L'œuvre ne courut un risque grave que pendant la guerre de 1939. Les automobiles marchant alors au gazogène, on n'avait jamais assez de bois. On commença à faire des coupes dans les chaînes de 1910, mais ces quartiers sont si loin de tous les réseaux routiers que l'entreprise se révéla très mauvaise au point de vue financier. On l'abandonna. Le berger n'avait rien vu. Il était à 30 km de là, continuant paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de 1939, comme il avait ignoré la guerre de 1914. J'ai vu Elzéar Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert, mais maintenant, malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé le pays, il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. Je mis sur le compte de ce moyen de transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux de mes premières promenades. Il me semblait aussi que l'itinéraire me faisait passer par des endroits nouveaux. J'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien cependant dans cette région, jadis en ruine et désolée. Le car me débarqua à Vergon. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons avait 3 habitants. Ils étaient sauvages et se détestaient, vivaient de chasse au piège, à peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire. Les orties dévoraient autour d'eux les maisons abandonnées. Leur condition était sans espoir. Il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort, situation qui ne prédispose guère aux vertus. Tout était changé, l'air lui-même. Au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise souple, chargée d'odeurs. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs, c'était celui du vent dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin. Je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante, et ce qui me toucha le plus, on avait planté près d'elle un tilleul qui pouvait déjà avoir dans les 4 ans. Déjà gras, symbole incontestable d'une résurrection. Par ailleurs, Vergon portait des traces d'un travail pour l'entreprise duquel l'espoir était nécessaire. L'espoir est donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs délabrés et reconstruit 5 maisons. Le hameau comptait désormais 28 habitants, dont 4 jeunes ménages. Les maisons neuves, crépies de frais, étaient entourées de jardins potagers où poussaient mélangés mais alignés les légumes et les fleurs, les choux et les rosiers, les poireaux et les gueules de loup, les céleris et les anémones. C'était désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter. À partir de là, je fis mon chemin à pied. La guerre dont nous sortions à peine n'avait pas permis l'épanouissement complet de la vie, mais Lazare était hors du tombeau. Sur les flancs abaissés de la montagne, je voyais de petits champs d'orge et de seigle en herbe. Au fond des étroites vallées, quelques prairies verdissaient. Il n'a fallu que les 8 ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913 s'élèvent maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts se sont remises à couler. On en a canalisé les eaux. À côté de chaque ferme, dans des bosquets d'érables, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche. Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population venue des plaines où la terre se vend chère s'est fixée dans le pays, y apportant de la jeunesse, du mouvement, de l'esprit d'aventure. On rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourris, des garçons et des filles qui savent rire et ont repris goût aux fêtes campagnardes. Si on compte l'ancienne population, méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur, et les nouveaux venus, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à Elzéar Bouffier. Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que malgré tout la condition humaine est admirable. Mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu.
Speaking of my grief, speaking.
C'est une jolie fable, hein, une fable écologiste.
Oui. Oui, oui. Et en fait,
qui a inspiré du monde.
Oui, oui. Il y a eu plusieurs opérations de reforestation, notamment en Provence et au Canada. Et il y a même un homme en Inde qui a planté, alors je ne sais pas si je pourrais vous dire son nom, Bosaheb Thora. Il a planté 45 millions de graines à la suite de la lecture du récit de Giono. Et il a créé la Dandakaranya Abhiyan. Alors,
en Inde, ça ?
Me reprenez pas, hein, vous n'êtes pas capable. Oui, en Inde.
En Inde.
Voilà. Donc, il a quand même fait des émules.
Il a quand même fait des émules.
Voilà.
Ouais. Passionnant. Écoutez, notre émission touche à sa fin. Catherine, tu vas nous rappeler le titre du conte que tu viens de nous lire.
Alors, il s'agit de L'homme qui plantait des arbres, de Jean Giono, qui a été écrit donc, en 1953, publié en France alors, chez Gallimard en 1983. Et puis après, il y a des rééditions très régulièrement. Et Gallimard Jeunesse, l'autre exemplaire, c'est 2017. Donc, très récent, en fait. Enfin, assez récent.
Oui. Et toujours en collection jeunesse.
Celui-là en collection jeunesse. Alors sinon, il y a un petit NRF en collection adulte.
Qui est collector.
Ah, il plaît bien celui-là.
Merci Catherine. Eh bien, nous disons au revoir à nos amis de la Motte qui sont venus nous voir aujourd'hui. On va leur souhaiter un bon retour. Au revoir Madame Ingrand, au revoir chers auditeurs. Nous nous retrouverons le mois prochain pour une nouvelle lecture. Et nous allons nous quitter avec une dernière lecture de nos amis de la Motte.
Sur 5. Si tous les jours vous avez gros sur la patate, vous êtes dans les choux, vous ramenez votre fraise, vous avez aussi la pêche, et même si vous prenez un marron, c'est bien. Vous avez consommé 5 fruits et légumes.
Rouge, les feuilles de l'érable. Orange, les champignons des bois. Jaune, le soleil qui se voile. Marron comme le tronc, belles sont les couleurs de l'automne.
L'automne a laissé sa place à l'hiver, partout une trace de vert. Les feuilles ont complètement disparu, laissant des branches entièrement nues. Les montagnes se parent de blanc, les flocons de neige tombent doucement. La nature semble s'être endormie, l'écho résonne au moindre bruit. Le froid s'entend dans la vallée, le soleil brille sur les sommets. Écharpe, gants, bonnet de sortie, mais quel plaisir de rester au lit. Karine Persillet.
Merci et au revoir.